France Inter.
Aujourd'hui, l'homme qui plantait des arbres, raconté par
Marion Stoïki, docteur en langue et littérature française,
et Siegfried de Turckheim, illustrateur.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Je lui demandais si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était ? Il ne savait pas. Il supposait que c'était une terre communale, ou peut-être était-elle la propriété de gens qui ne s'en souciaient pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il planta ainsi ses 700 glands avec un soin extrême. Après le repas de midi, il recommença à trier sa semence. Je mis, je crois, assez d'insistance dans mes questions puisqu'il y répondit. Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté 100 000. Sur les 100 000, 20 000 étaient sortis. Sur ces 20 000, il comptait encore en perdre la moitié du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant. C'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de cet homme. Il avait visiblement plus de 50 ans. 55, me dit-il. Il s'appelait Elzéar Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines. Il y avait réalisé sa vie. Il y avait perdu son fils unique, puis sa femme. Il s'était retiré donc dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourait par manque d'arbres. Il ajouta que n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. Extrait de L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Marion Stoïki et Siegfried de Turckheim, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Marion Stoïki, vous êtes donc professeur de lettres dans le Var et vous avez soutenu une thèse en 2023 intitulée « Le livre et la lecture dans l'œuvre narrative de Jean Giono ». Vos recherches vous ont notamment mené à vous interroger sur les paysages, la géographie fictive, mais aussi l'aspect éco-poétique inscrit dans l'œuvre de Giono. Et puis Siegfried de Turckheim, vous avez de votre côté illustré l'homme qui plantait des arbres chez Paulsen, et c'était en novembre dernier. Marion Stoïki, pour commencer, pourquoi ce tout petit livre de Jean Giono, écrit en 1953 et qui ne fait qu'une vingtaine de pages, a marqué autant les esprits, selon vous ?
Alors, pour plusieurs raisons, selon moi. Tout d'abord, c'est un petit peu un apax, en fait, ce petit livre, cette nouvelle. Premièrement parce que c'est une commande qui a été passée par The Reader's Digest à Jean Giono. Et donc, premièrement, l'œuvre est parue en anglais. Voilà. Et ça, c'est une thématique aussi qui a beaucoup touché dès le départ les personnes qui l'ont lu. Les lecteurs ont été touchés par la thématique écologiste qui a été vue, on reviendra peut-être là-dessus plus tard, en tout cas par la place de la nature dans l'œuvre.
Dès les années 50 ?
Dès les années 50, oui, ça a fait écho à beaucoup de personnes. Donc cette idée-là, ça a beaucoup plu. On a des traces en fait de lettres qui ont été envoyées à la maison, à l'Office national des forêts, pour demander si cette forêt naturelle entre guillemets existait vraiment, celle qui est décrite dans la nouvelle. Et ensuite, c'est aussi dû au personnage d'Elzéar Bouffier, qui est en même temps un être très simple. Et qui a réalisé de grandes choses. Alors dans la nouvelle, on précise bien que c'est presque divin en fait comme action. Et ça a donné en fait des élans, à certaines personnes. Donc une volonté de reproduire peut-être ces petites actions qui finalement ont de grandes conséquences et bénéfiques.
Siegfried de Turckheim, de votre côté, comment vous analysez-vous le succès de ce livre dès sa parution finalement sur un texte aussi court ?
Sur un texte aussi court, il faut que je fasse appel à moi le ressenti que j'ai eu en lisant pour la première fois. Je crois que au travers de ce personnage d'Elzéar Bouffier, Giono crée un mythe. Le mythe donc de cet homme qui paraît très simple et qui fait de grandes choses.
Vous avez quelque chose à raconter sur ce livre.
Oui.
La première fois que vous l'avez découvert, c'était dans des circonstances particulières, ça vous pouvez peut-être nous le dire.
les circonstances de la découverte de ce livre. En fait, j'ai une grand-mère grecque qui habitait dans le sud de la France, en Provence. Tous les étés, j'y passais 2 mois et je m'y ennuyais sec là-bas. Et au dernier étage où je dormais avec ma sœur, ma grand-mère qui était journaliste et qui donc recevait énormément de livres, entreposait beaucoup de mauvais livres là-haut. Et un jour, par bonheur, j'ai trouvé ce livre et j'ai commencé la lecture. Au dernier étage, il faisait un peu trop chaud. Je l'ai terminé dehors, au bout du champ, dans une borie où j'avais l'habitude de lire. Et je crois que j'ai jamais été autant marqué par la lecture d'un livre. Et je me souviens de cette phrase qui, à l'époque de sa lecture, m'avait fait dire que c'était la plus belle phrase du monde. C'était, je crois, de mémoire, c'est « La société de cet homme donnait la paix ». Et en fait, on venait de lire, dans une page très méticuleuse, très belle, tout le travail d'Elzéar Bouffier qui trie ses glands et qui, comme ça, réalise son œuvre quotidienne patiemment. Et tout ça se termine sur cette petite phrase très simple qui résonnait en moi beaucoup, puisque j'étais un garçon un peu tourmenté, dévoré de toutes sortes d'ambitions et très mal à l'aise, enfin mal dans ma peau. Et donc en lisant cette phrase, me dire qu'on pouvait trouver la paix dans une petite pratique aussi simple et belle, ça m'avait beaucoup marqué.
Vous aviez quel âge à ce moment-là exactement?
Je devais avoir soit une jeune vingtaine, soit passer 18 ans, je dirais.
Ouais. Marion Stotsky, de votre côté, la première fois que vous avez lu cet ouvrage, vous en gardez le souvenir ou pas?
Oui. Alors, ce n'était pas dans le même contexte. Moi, c'était dans le contexte scolaire. En fait, je l'ai découvert grâce à mon enseignante de français de la classe de 5e, il me semble, qui nous l'avait fait lire en complément d'un autre roman du même auteur, Colline. Et ce texte, moi, je me rappelle que j'avais été frappée immédiatement par l'image de la nature qu'on avait dans Colline et qu'on retrouve un petit peu, alors pas exactement dans les mêmes dimensions, mais justement, dans L'homme qui plantait des arbres, on a enfin l'impression qu'il y a une compréhension, une harmonie de l'humain envers la nature. Et ça m'avait touchée, l'histoire qui racontait, alors non seulement l'histoire de cet homme simple qui est parti dans les hauteurs, qu'elles soient géographiques et symboliques, qui est parti dans les hauteurs après la perte de sa famille et qui a décidé de planter des arbres à la fois pour se désennuyer, parce qu'il y a cet aspect-là, et en même temps pour apporter de la joie. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ce qu'on va retrouver aussi dans Que ma joie demeure, c'est également amener le bonheur par l'action de planter des arbres.
Marion Stotsky, effectivement, Giono invente un berger fictif, Elzéar Bouffier, et c'est vrai, avec un réalisme tellement précis que les lecteurs et les lectrices ont cherché cet homme dans les archives, persuadés qu'il avait existé. Et est-ce que Giono a entretenu le flou lui-même, d'ailleurs, sur cette question?
Ah oui, mais dès le départ. Alors Giono, il faut savoir que c'est un auteur qui aime beaucoup s'amuser de cet espace flou entre le mensonge et la vérité, le mensonge fictionnel. Oui. Donc dès le départ, puisque la commande était passée pour décrire un personnage qu'on avait vraiment rencontré, donc quelqu'un de réel. Dès le départ, donc le journal a émis des doutes et a envoyé quelqu'un enquêter, donc John Panizza, qui n'a rien trouvé évidemment dans les environs de Bannon. Et cette personne a voulu ensuite rencontrer Jean Giono, qui lui a certifié que Elzéar Bouffier existait vraiment. Et en fait, donc, tout en disant à sa famille, à sa propre famille, qu'il fallait vraiment être stupide pour penser qu'un écrivain pouvait écrire sur quelqu'un de réel. Bon. Donc il entretenait le flou, à tel point que John Panizza est revenu encore une fois à la charge, et Jean Giono lui a dit « Non, mais finalement, cette personne a bien existé, mais ce n'est pas moi qui l'ai connue. Ça s'est passé encore avant, mais je peux vous donner des noms de personnes qui pourront vous renseigner. » Évidemment, encore une fois, il n'a rien trouvé puisque ce personnage n'existe pas.
Ça a duré combien de temps, ce petit jeu là, de la part de Jean Giono, alors?
Ce petit jeu a duré quelques mois. Voilà, jusqu'au moment où, bon, le 1er décembre 1953, le journal a refusé tout bonnement le manuscrit, puisque voilà, on avait trop de doutes sur l'existence d'Elzar. Mais c'est vrai que jusque dans les années 70, on a encore des personnes qui, des journaux, qui ont pensé que cette personne, Elzar Bouffier, existait vraiment.
Ouais, mais ça veut dire que la nouvelle n'a jamais été publiée, alors, finalement ?
Si, si, elle a été publiée. Elle a été refusée donc en décembre 53.
Oui.
Et donc, quand Jean Giono a été donc libéré de son engagement, le journal Vogue lui a proposé une publication. Ce qu'il a accepté en refusant de demander des droits d'auteur.
Oui.
Et donc ça aussi, ça fait partie, je pense, de la notoriété de la nouvelle, c'est qu'elle n'a jamais rien rapporté à son auteur. Et c'est une vraie volonté. Puisque, selon lui, voilà, ça fait partie d'une certaine forme de générosité qui est seule à pouvoir générer de vraies actions.
Ouais. Donc, il y a eu quand même quelques rebondissements, on l'entend, autour de ce manuscrit, effectivement. Nouvelle, on le rappelle, ça fait quand même une vingtaine de pages seulement. Pour ceux, d'ailleurs, qui ne l'auraient pas lu, Marion Stoïki, comment on peut résumer en quelques mots l'histoire pour en être déjà un petit peu saisi, là ? Qu'est-ce qu'il faut retenir du pitch, alors ?
Alors, ce qu'il faut retenir, sans pour autant tout dévoiler, c'est donc Jean Giono raconte que dans sa jeunesse, il était allé faire une marche dans la montagne de Lure.
Oui.
Et qu'il remarque que c'est un vrai désert, l'eau ne coule plus, les villages sont ruinés, il n'existe plus vraiment de vie. Et les quelques personnes qui habitent encore là, on a l'impression que leur caractère est extrêmement sec, extrêmement aigre. Et finalement, en manque d'eau, voilà, il essaie d'avancer, de trouver quelqu'un, quelque chose, et il tombe sur ce vieux berger qui vit seul, qui, lui, a trouvé une façon d'obtenir de l'eau. Et il va passer la nuit chez cet homme et observer un petit peu son action sur l'environnement et son passe-temps, qui consiste à trier des glands, puis ensuite planter ceux qu'il considère comme étant les plus aptes à pousser.
Voilà, donc rien d'exceptionnel dans cette histoire, rien de spectaculaire en tous les cas. C'est ce qui fait d'ailleurs aussi un petit peu le mystère du succès de ce récit, non ?
Oui, et c'est en même temps l'objet de la petite morale liminaire qu'on va trouver au début donc de cette nouvelle fable. C'est justement le récit sert d'exemple à ce que devrait être un caractère exceptionnel, c'est-à-dire un caractère qui est dépouillé de tout égoïsme, qui au contraire fait preuve d'une générosité mais qui ne cherche nulle récompense et qui donne des marques visibles mais pas, voilà, pas spectaculaires, c'est quelque chose qui se fait dans le temps long et qui n'attend rien en retour.
Siegfried de Turckheim, dans quelles conditions est-ce que vous avez été amené à illustrer justement cet ouvrage, puisque je rappelle que cette édition est sortie en novembre dernier aux éditions Paulsen, alors même que vous nous l'avez raconté, hein, ce livre vous avait tellement marqué dans votre jeunesse, donc quelques temps plus tard, on vous fait la proposition, c'est le plus grand des hasards ou vous l'avez un petit peu provoqué ?
Non, Paulsen m'avait contacté au départ pour illustrer un autre texte, je les ai rencontrés en déclinant leur gentille invitation. Néanmoins, j'ai vu dans leur bibliothèque L'homme qui plantait les arbres, et je leur ai tout de suite dit, mon Dieu, ce texte, quelle merveille. On s'est tout de suite retrouvés sur cet amour commun pour le livre.
Ouais.
Je lui ai dit, mais pourquoi pas l'illustrer ? Et ils m'ont appris, ce que j'ignorais, que le texte était libre de droit. Ce qui n'est pas si clair d'ailleurs en réalité, mais en tout cas, on l'a cru et on s'est dit, bah, allons-y, ce sera très simple. En plus, je suis inspiré depuis toujours, je disais que j'ai... Je suis presque fait pour le dessiner, puisqu'il m'a tellement marqué, jeune homme, et que j'ai toutes les images dans la tête. Et c'est d'ailleurs un point important, puisque je voulais absolument travailler d'imagination pour réaliser ce livre. Je sortais de mon précédent livre où j'avais beaucoup travaillé sur ordinateur. Je m'étais donné énormément de mal pour faire un livre très ambitieux. Et là, je voulais quelque chose de très simple. Je voulais pouvoir dessiner à la plume, sans intervention numérique aucune. Et donc, c'était l'occasion rêvée.
Ouais. Et vous vous êtes laissé aller par vos souvenirs ou vous avez relu cette nouvelle pour
Je l'ai relu 10 fois.
Oui, c'est ça, pour être le plus fidèle possible quand même à ce texte.
Oui, sachant qu'il est assez vague, dans le fond, pour laisser une grande liberté. Parce qu'il n'est pas spectaculaire, on disait tout à l'heure, ce texte.
Bon,
il est déjà très spectaculaire spirituellement, quand même. Hein, l'idée de ce geste qui fait qu'il force l'admiration. Donc, c'est en ça qu'il est spectaculaire. Et puis, il donne à voir aussi la majesté des arbres. Enfin, il permet du moins au travers du dessin, d'aller dessiner les arbres et de si, enfin voyez, je vous montre la couverture, je sais pas la caméra, mais dessiner un arbre c'est toujours assez assez émouvant.
On va d'ailleurs mettre sur le compte Instagram de La Terre au Carré des illustrations de précisément ce livre par vous, Siegfried de Turckheim, pour que les auditeurs et auditrices puissent voir en même temps qu'on se parle justement quel est votre travail et votre patte aussi autour donc de cette nouvelle de Jean Giono. Donc vous pouvez aller en story sur le compte Instagram de l'émission pour voir justement ces illustrations. J'aimerais qu'on écoute quand même la voix de Jean Giono qui s'entretenait chez lui à Manosque avec la journaliste Maggie Roubaud. C'était en 1969, il lit là son tout premier texte de jeunesse qui s'appelle « Apporte babot » qu'il avait écrit à l'âge de 14 ans.
« Apporte babot, les châtaignes bouillies et ferment dehors le vent de novembre. Il fait déjà froid, mes amis. Apporte aussi babot, ma belle, ces bouteilles translucides de vin cuit et de semoustat. Ce vin vient de mes vignes maigres de l'Espel, j'en ai peu, l'ombre des chênes me mange le fruit, mais il a né ce vin, c'est le véritable suc des pirailles, que tout le long de l'an, le soleil brûle, l'autre plus épais de l'ubac caressé des vents. Ah, sans la maladie, nous aurions encore la souche véritable du pays qui nous accablait de grappes.
Marion Stotsky, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce texte de jeunesse, là, de Giono, écrit donc à 14 ans, avec cet archive de 69
C'est un texte où... Alors oui, voilà, c'est texte de jeunesse dans lequel on a quand même en germe toutes les thématiques qu'on découvrira plus tard. Après, c'est une écriture qui a encore évolué. Il y a un autre texte qui est aussi écrit à la même période, qui n'a pas grand-chose à voir. C'est des thématiques qu'on va retrouver plus tard aussi dans Solitude de la pitié ou L'eau vive, qui sont deux autres recueils de nouvelles.
Et donc, on revient vers vous dans un instant avec ce livre « L'homme qui plantait des arbres », Jean Giono, et c'est le thème aujourd'hui de La Terre au Carré.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au Carré.
Il y a deux Provences. Mais il y a la Provence, comme vous avez dit, de Jean Écart, de Pagnol, de Daudet, de Mistral. Et puis il y a l'autre Provence, qui est celle qui a été décrite par les grands écrivains, c'est-à-dire par, aussi bien par Stendhal que par Shakespeare, que par Cervantes, que par Dostoïevski. Celle-là, c'est une Provence à la mesure humaine, c'est plus la Provence dans laquelle on joue de la flûte et où les bergers sont tous bons, où les riches sont tous mauvais, enfin tranchés, quoi.
Ça, c'est Mistral.
Où il n'y a pas de choses Saint-Sulpiciennes.
Vous pensez que le monde moderne déracine les gens?
Oui, je pense qu'il les déracine, je pense surtout qu'il leur supprime les possibilités de bonheur gratuites.
Une archive de Lina avec la voix de Jean Giono sur l'ORTF en 1959. C'était chez lui à Manosque, à son bureau. Giono qui parlait des deux Provences dans le cadre de cette Terre au Carré aujourd'hui autour de ce livre, de cette nouvelle, puisqu'elle fait 20 pages, on vous le disait tout à l'heure, qu'on vous invite chaleureusement à lire ou à relire. L'homme qui plantait des arbres. Et pour en parler, nous sommes avec Marion Stoïki, spécialiste de Jean Giono, et Siegfried de Turckheim, vous qui avez illustré cet homme qui plantait des arbres dans une version pour Paul Sen. Marion Stoïki, justement, quand on lit cette histoire dans un monde aujourd'hui, en 2026, traversé par la crise climatique, est-ce qu'on peut y voir vraiment un texte écologique avant l'heure, ou est-ce qu'on risque de projeter sur Giono des préoccupations qui ne sont pas vraiment les siennes à l'époque où il écrit ça dans les années 50 ?
C'est une question très complexe, parce que oui, on a vraiment cette conscience, on va dire, de la nature chez cet auteur, cette volonté aussi de limiter, non pas le progrès, mais certaines avancées techniques qui, pour lui, font du mal justement à l'environnement. Voilà, donc il va critiquer l'agriculture intensive, il va critiquer aussi les pesticides, etc. Donc des choses qu'on va retrouver aujourd'hui dans les causes écologistes. Par contre, on ne peut pas le considérer, selon moi, et c'est un avis partagé par plusieurs critiques, on ne peut pas le considérer comme un écologiste avant l'heure. Pourquoi ? Parce que pour être écologiste, en tout cas tel qu'on le conçoit aujourd'hui, il faut normalement être un petit peu politisé, mener des actions concrètes. Ce qui n'a jamais été fait par Jean Giono. Mmh. Oui, on a quelques prises de position par-ci par-là, en tout cas par écrit. Mais voilà, ça reste dans le domaine de l'écrit et c'est pas, ça va pas être une action collective, une inscription dans un mouvement politique. Mmh. Après, ça tient aussi à une volonté de ne pas s'inscrire dans un quelconque mouvement politique.
Oui, parce que ce qu'on entendait dans sa bouche là, en 1959, Marion Stoïki, c'est un discours qu'on pourrait entendre aujourd'hui dans la bouche d'écologistes, hein, sur le rapport à la nature et la déconnexion des humains par rapport à leur environnement.
Oui, tout à fait. Après, on peut par exemple voir certains concepts hein, qui vont être développés un petit peu plus tard. Je pense notamment aux thèses d'Arnès sur l'écologie profonde. On va retrouver certains thèmes. On retrouve aussi par exemple le principe de reliance d'Edgar Morin. Cette idée que l'être humain n'est pas... c'est pas un anthropocentrisme, voilà. C'est plutôt l'être humain fait partie d'un tout. D'un écosystème, tout simplement. Et ça, oui, on va le retrouver chez Jean Giono.
Siegfried de Turckheim, est-ce que vous, dans votre travail d'illustrateur, on pourrait parler d'une écologie du dessin qui collerait aussi, effectivement, à l'esprit de Giono, dans ce que vous nous disiez tout à l'heure, d'éviter vraiment les ordinateurs et de repartir dans la simplicité pour dessiner ?
Ah oui, dit comme ça, oui, je suis d'accord.
Ouais.
Dans l'idée de fuir l'ordinateur, et ça rejoint le plaisir de Giono aussi, enfin en tout cas l'aspiration à s'échapper de la modernité. Et ça, oui, c'est vraiment comme ça qu'est née l'envie de ce livre, d'être à l'encre et à la plume sur du papier le plus simplement possible.
Ouais.
Oui, et d'avoir un style, comme le style du livre, le style de Giono, d'avoir une écriture très sèche. Moi aussi, je voulais un trait très épuré, c'est noir sur blanc. On pourrait parler d'écologie du dessin.
Ouais. Ouais. Et dans cette Provence aussi, assez...
Ah, ça, j'ai adoré ça, ce qu'il disait. Il parlait de sa Provence à lui, et en effet, lui, il n'y a pas de folklore, c'est pas pittoresque.
C'est ça, ouais.
C'est presque biblique, c'est sec. Et ça, je voulais vraiment qu'il y ait ça aussi. Dans les... Je voulais que transparaisse au travers des dessins
et
cet
aspect-là. Et comme l'est d'ailleurs géographiquement, cette Provence aussi de Manosque, hein, c'est une Provence austère,
oui.
Aride, hein, sèche, justement. Donc qui correspond bien aussi
à
votre volonté de le dessiner aussi comme ça.
Oui, et dans le trait, j'ai pas mal travaillé pour trouver le style du livre et j'en arrivais finalement toujours, moi qui a toujours peur de mal faire ou de pas en faire assez, je cherchais toujours à charbonner beaucoup les dessins, c'est-à-dire à mettre beaucoup de détails. En fait, je me suis rendu compte que ce qui marchait le mieux pour illustrer ce texte, c'était d'avoir des dessins les plus épurés. Donc dès qu'on est dehors, la montagne, c'est une ligne et les personnages, une silhouette à peine esquissée. Donc j'ai vu que l'économie du trait répondait très bien aussi au lieu au dépouillement du texte pour dire sa fable.
Ouais. Marion Stoïki, vous avez vu le travail de Siegfried de Turckheim, j'imagine, dans cette version hein, de l'homme qui plantait des arbres. Ce qu'il nous dit justement de sa propre démarche artistique, vous l'avez ressenti vous aussi en le découvrant à travers ses dessins ?
Exactement. Je l'ai ressenti, et puis là justement ce qu'il vient d'évoquer, c'est-à-dire de faire une ligne voilà, pour dessiner un personnage, ça correspond parfaitement à moi en tout cas aussi comment je percevais Elzéar Bouffier lors de la première rencontre avec Jean Giono, c'est-à-dire quand il le confond de loin avec un tronc d'arbre, cette silhouette en fond qui se dresse au même titre qu'un végétal, oui. Je trouve que ce travail est parfaitement représentatif.
Absolument. Et on voit à quel point ça se confond dans les dessins, justement, de Siegfried de Turckheim. Marion Stoïki, le choix du prénom Elzéar et du nom Bouffier, qu'est-ce que ça raconte aussi dans la construction du personnage par Jean Giono, là, qui, cette figure à la fois paysanne et très symbolique, comme on en a parlé?
Mais voilà, justement, c'est le côté paysan, le côté très humble, puisque Elzéar, autant que Bouffier, hein, sont des patronymes qui sont très répandus. Alors Elzéar, c'est un prénom assez fréquent en Provence.
Oui.
On a même un saint, en fait, de cette région qui s'appelait Elzéar. Et Bouffier vient tout simplement de Bouvier, très répandu aussi.
Le gardien des bêtes, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Et en même temps, Elzéar fait penser à Lazare, le personnage donc biblique qui apparaît dans le Nouveau Testament et qui signifie « Dieu a aidé ». Le prénom en hébreu signifie « Dieu a aidé ». Et On a beaucoup de références aussi bibliques dans cette nouvelle. Alors, que ce soit à travers Lazare qui revient, hein, tel quel, quand on dit que Lazare était hors du tombeau à la fin de la nouvelle, au moment où il est question de la renaissance inespérée. On évoque le pays de Canaan. Et plusieurs fois, il est dit que ce paysan, voilà, ce pauvre paysan sans culture, a su mener à bien une œuvre digne de Dieu. Donc, on fait un petit peu la synthèse entre l'humilité paysanne et la divinité de cette action.
Ouais, et au-delà du paysan, c'est la figure du berger, hein, quand même aussi.
Hein, oui, qu'il faut bien sûr. Oui, oui. C'est ça. Le pâtre qui est à la fois une figure biblique et en même temps qui apparaît aussi en lien avec une autre divinité païenne cette fois, mais qui plaisait beaucoup en fait à Jean Giono, c'est le personnage de Pan. Mmh. Le dieu Pan, dieu des bergers, dieu de la nature.
C'est ça. Un dieu très large, en tout cas, hein, qui embrassait beaucoup de choses. Siegfried de Turckheim, cette dimension sacrée, vous en parliez un tout petit peu tout à l'heure rapidement, mais elle vous a touché aussi dans ce personnage et dans le récit ?
Elle m'a touché parce que j'aime les symboles, j'aime les mythes, pas au sens spirituel profond, puisque je ne suis pas croyant. Disons que les ressorts spirituels m'atteignent, bien que je ne croie pas en Dieu, enfin pas au sens classique. Et c'est vrai que ce personnage a tout d'un personnage mythique, et c'est pour ça qu'il plaît à tant de monde, c'est pour ça qu'il m'a plu.
Marion Stoïcki, justement, cette figure prophétique, hein, vous avez employé le mot tout à l'heure, dans ce personnage d'Elzéar Bouffier, ce berger donc, c'est quoi finalement ? C'est cette figure qui finalement fait le lien entre les humains et la nature, cette dimension spirituelle bien plus grande encore qu'est la nature ?
Oui, c'est ça. Il fait le lien et en même temps, il s'efface derrière ce lien. Alors, contrairement, par exemple, à la représentation traditionnelle de l'ermite ou voilà du prophète, dès le départ, on voit bien que il fait attention à son image, il entretient sa maison, etc. Mais en même temps, il parle peu. Donc, ce que vous aviez dit tout à l'heure, il parle peu et à la fin de sa vie, il finira par perdre l'usage de la parole. Ça, c'est très représentatif parce qu'il perd l'usage à force de ne pas l'utiliser, mais en même temps, on a aussi cette impression que la parole ne lui sert plus à rien. Il est un prophète en tant que, enfin, au niveau des gestes. Il amène une action à reproduire, tout en s'effaçant derrière cette action, puisqu'il ne cherche aucune reconnaissance.
Marion Stoïcki et Siegfried de Turckheim, on vous retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette discussion autour de ce livre, L'homme qui plantait des arbres, Jean Giono.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
La déforestation a fait beaucoup de mal à ce pays. Avant, les arbres étaient énormes. Ces arbres étaient la force et la vitalité du Kenya.
Les sols s'érodent, les rivières s'assèchent et il faut aller chercher toujours plus loin le bois, l'unique source d'énergie ici. Les communautés s'enfoncent dans la pauvreté. Pour enrayer la catastrophe, Wangari Maathai a l'intuition que cela passera par une plantation massive d'arbres orchestrée par les femmes.
Voilà un reportage d'Arte en 2025 avec la Kenyane Wangari Maathai qui a voué sa vie à se battre pour la reforestation de son pays. Et autour de ce livre, en tout cas nous, qui nous a beaucoup inspiré aussi, L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Marion Stoïcki, on en parle avec vous qui êtes spécialiste de Giono, et Siegfried de Turckheim, illustrateur donc de cette nouvelle édition de L'homme qui plantait des arbres aux éditions Paulsen. Marion Stoïcki, justement, quand on entend la Kenyane Wangari Maathai, c'est un exemple parmi tant d'autres de ces personnes qui ont eu, comme le héros justement de la fable de Giono, l'idée de replanter justement des arbres. Est-ce que la fable de Giono a inspiré justement des mouvements en ce sens ou pas ?
Oui, oui, oui. Alors déjà pour revenir sur Wangari Maathai, on la surnomme aussi la femme qui plantait des arbres.
Ouais.
Donc ça fait écho effectivement à cette nouvelle. On a des actions qui ont été inspirées par la lecture de l'œuvre de Giono. Mmh. Que ce soit, alors je pensais en 2011, on a le projet Giono qui a été lancé par l'ONF.
Ça, c'est un projet qui, justement, concernait la replantation, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça, exactement. Donc, replanter, justement, une forêt en prenant des essences, des espèces de plusieurs endroits différents. Et la forêt, c'est sur le lieu de la bataille de Verdun. Mmh. Donc, c'est en plus doublement symbolique, puisque Jean Giono a participé à cette bataille.
Il y avait la Sainte-Baume aussi, me semble-t-il, dans ce projet Giono de l'ONF
Je ne sais pas.
Apparemment, il y avait le massif aussi de la Sainte-Baume, hein,
d'accord,
qui était concerné. Ouais.
Non, après, on a eu quelques projets qui ont été menés dans les années 2000. Il me semble qu'il y avait le programme des Nations Unies pour l'environnement, pareil, qui consistait à replanter des graines à travers le monde. Et certaines personnes, alors que ce soit de façon plus épisodique, hein, vont se mettre à planter comme ça des arbres et on a des références à Jean Giono.
Siegfried de Turckheim, est-ce que vous nous lisiez tout à l'heure, hein, ce texte, vous l'avez découvert, vous avez une vingtaine d'années, est-ce qu'il vous a donné envie aussi de planter des graines pour peut-être donner naissance à des forêts plus tard,
hein ? Des forêts, je ne sais pas, en tout cas pour la naissance de mes trois enfants, c'est ce qu'on a fait religieusement, on est allé planter trois graines.
Ouais.
Mais concernant ce qu'on venait de dire aussi, j'avais été frappé au cinéma en allant voir le film Le sel de la terre, qui est un film sur le photographe Salgado. Et lui avait retrouvé dans un état déplorable les terres familiales et avec sa femme a entrepris de reboiser l'ensemble et en avouant plus tard avoir été inspiré par le texte de Giono. Donc c'est vraiment un émule direct, hein, de la fable de Giono.
Absolument. Et il y a des photos, hein, d'ailleurs. On en avait parlé avec ce photographe à ce micro il y a quelques années de ça. Justement, Marion Soïki, cette fiction, donc, elle a eu des effets concrets dans le monde réel, hein, en inspirant ces initiatives. Donc c'est pas juste une fiction, c'est quelque chose qui s'ancre vraiment dans la terre aussi. Hein.
C'est ça, et puis c'est aussi c'est un livre qui est toujours utilisé pour développer la conscience écologique. C'est exactement ce qui est écrit, par exemple, sur la liste ministérielle de référence pour la littérature du cycle 3, par exemple. C'est une œuvre qui est proposée pour la scolarité en disant bien que c'est dans le but de développer la conscience écologique. Donc, on a oui, des actions concrètes, alors, notamment par des plantations, par des reforestations, mais aussi par des volontés comme ça, un peu plus politiques, d'utiliser ce texte dans une visée écologique, sinon écologiste, qui n'était pas de base, en fait, inscrite dans l'œuvre.
Ouais. Vous qui vivez en Provence, Marion Soïki, est-ce que cette nouvelle a marqué justement beaucoup l'esprit des Provençaux eux-mêmes dans la littérature justement de Giono ? Est-ce qu'il a une place à part, hein, ou est-ce qu'on le redécouvre finalement un peu tard, hein ?
Je pense que, alors, on le redécouvre depuis les années 2000, en particulier, à mon sens. Il est beaucoup plus inscrit, voilà, dans les discours. C'est une œuvre qui revient à la mode, on va dire ça comme
ouais,
ça, depuis quelques années. Et après, vraiment, dans la région de Giono, c'est aussi une inscription dans la géographie même du territoire, puisqu'on a une rue qui s'appelle la rue Elzéar-Bouffier à Manosque.
Ouais, incroyable, parce que là, du coup, c'est la fiction qui se confond avec la réalité. Ce texte, donc, continue d'occuper une place importante dans l'enseignement, vous le disiez tout à l'heure, au point d'être découvert, donc, oui, effectivement, par ces nouvelles générations. Hein.
Oui. Oui, oui, il était. C'était l'année dernière, en 2024. C'était aussi le livre pour les vacances qui était donné aux élèves de CM2 pour les vacances d'été.
Ouais.
Donc oui, c'est redécouvert de plus en plus.
Voilà. Et puis là, c'est un bon format aussi pour les plus jeunes qui parfois ont un petit peu de mal à se remettre dans la lecture, puisque là, avec une vingtaine de pages, on a de quoi justement avoir une première approche intéressante. Hein.
Effectivement.
Est-ce que vous évoquez dans vos travaux une espèce de brouillage des frontières entre les humains et les animaux chez Giono ? Est-ce que c'est visible là dans ce récit ou pas ?
Un petit peu, mais c'est beaucoup plus subtil que dans d'autres écrits, puisque on l'évoquait tout à l'heure, le fait de confondre Elzéar-Bouffier avec un arbre montre une sorte de brouillage des frontières assez visuel et voilà, très par touche. Mais à part ça, c'est vrai que on le voit moins que dans d'autres domaines. Je pense notamment à une autre œuvre qui s'appelle Prélude de Pan, où le brouillage des frontières est extrêmement présent, voire violent. Voilà.
Pourquoi violent ?
Pourquoi violent ? Parce que justement, c'est un brouillage des frontières qui est une punition. Dans cette nouvelle, en fait, un homme a pris un oiseau, voilà, a capturé un oiseau et lui a brisé les ailes pour qu'il ne puisse pas s'envoler. Et s'amuse à le torturer, en fait, dans le bistrot dans lequel il se trouve. Et on a l'intervention du dieu Pan, sous des traits humains, et qui va décider, en fait, de punir cet homme pour le mal qu'il fait aux animaux.
Est-ce qu'on peut qualifier justement la pensée du Genot d'antispéciste ? Parce que c'est un, au sens poétique du terme, mais c'est un terme qu'on emploie beaucoup en ce moment.
Oui, alors encore une fois, au sens littéraire, poétique, oui, pourquoi pas ? Parce que pour lui, chaque être a une valeur intrinsèque. Et on n'a pas de hiérarchie, en fait, entre les êtres, qu'ils soient humains, animaux, voilà. Mais il n'y a toujours pas, voilà, cette volonté politique qu'on va retrouver dans les discours qui parlent de spécisme ou d'antispécisme.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Siegfried de Turckheim, donc on pourra découvrir vos illustrations, hein, le travail que vous avez mené dans cette épure, hein, dont vous nous parliez tout à l'heure. Vous étiez heureux de pouvoir passer du temps, d'avoir ce compagnonnage avec ce livre à travers vos dessins. Vous qui, encore une fois, avez été tellement marqué par ce texte étant plus jeune. Vous avez passé combien de temps à réaliser ces dessins pour le livre là ?
Ça m'a pris à peu près 6 mois, ouais. Je dirais. Oui, un grand bonheur à dessiner. Oui, tout au long.
Donc 6 mois avec Giono et 6 mois avec cet homme qui plantait ses glands là dans le sol.
Tout à fait. En le faisant, je me suis rendu compte que ce livre ne cesserait jamais d'être dans l'actualité puisqu'il s'oppose à cette société qui s'enfonce dans la technique et ce livre qui nous rappelle à quel point il est important et peut-être suffisant de se contenter de la nature et de la beauté de ce qui est offert gratuitement, comme il le disait dans cet extrait que vous avez passé un peu plus tôt.
En tout cas, merci à tous les deux de nous avoir aussi donné l'envie de redécouvrir ce texte, L'homme qui plantait des arbres, qui a été donc réédité chez Paulsen avec vos illustrations, Siegfried de Turckheim, mais qu'on retrouve aussi aux éditions Gallimard. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aux équipes d'ici Provence qui nous ont permis ce duplex avec vous, Marion Stotki. Et puis merci à Emma Bouvier qui a préparé ce dossier. Et puis un grand merci également à Philippe Duclos qui va voler tel un oiseau de ses propres ailes vers les océans de la retraite et que j'embrasse chaleureusement en souvenir de toutes ces années d'émission ensemble. Bon vent, camarade Duclos. Merci également à Mazir Amaïdine Guest qui réalisait cette émission et Tila Iravou qui était à la vidéo.